Bonjour et bienvenue à tous. Ça, c'est donc la journée que j'organise tous les ans. Bien sûr, on change de sujet chaque année. Et cette fois-ci, donc, j'avais pensé faire un bilan et une réflexion. Ce n'est pas le premier bilan, ça ne sera certainement pas le dernier bilan sur le sujet. Donc, le tournant visuel et l'histoire globale à l'époque moderne. Alors, donc, vous voyez tout de suite, c'est une peinture néerlandaise, ou peut-être pseudo-néerlandaise, de la fin du XVIIe siècle, avec au centre, donc, le globe, centré sur le Pacifique. Il y a ici l'Amérique, il y a aussi le Mexique qui est marqué. Et il y a toute une série d'objets mis ensemble dans un rapport un peu particulier, très, très bien choisi. Il y a bien sûr la référence là, au Vanitas, comme c'est le thème. Il y a le sablier qui va avec, pour de montrer le passage de temps. Et il y a cet objet-là qui m'intéresse beaucoup, qui est un texte qui porte donc en effet sur la vie du prophète Mahomet. Donc, vous voyez, c'est un texte en néerlandais centré sur Mahomet. Et le peintre, c'est quelqu'un qui n'a pas attiré beaucoup d'attention jusque-là. À ma connaissance, il n'y a qu'une étude monographique pour l'instant portant sur lui. Tandis que, en fait, c'est quelqu'un qui est assez intéressant. Il fait des peintures qui sont toujours plus ou moins dans le même genre de gamme. Par exemple, ça c'est un autre. Vous voyez qu'il se répète beaucoup. Hein, et il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Edvard Collier. Il a écrit Edvard et Collier de plusieurs façons. Il est né à Breda en 1640. Puis, dans les années 1690, après la Révolution glorieuse, il est allé s'installer à Londres. Il a fini sa vie, donc les derniers 15 ans ou 18 ans de sa vie à Londres, où il a en fait aussi fait des peintures. Je n'ai pas peut trouver des bonnes images, mais en fait, qui sont plus ou moins de même genre, sauf qu'il enlève les textes néerlandais et il met des textes anglais à la place. Donc, c'était quelqu'un qui avait, une vision un peu industrielle des choses. Mais toujours les mêmes choses, toujours les globes, vous voyez, toujours les textes, quelques documents, des documents, par exemple, ici, qui sont censés être une espèce de lettre, un ordre de Guillaume d'Orange, qui apparaît ici, et qui a une espèce un clin d'œil, une référence à Breda dans le texte. Alors, donc, quoi faire avec ce genre de peinture? Alors, tout le monde peut tirer l'image dans son sens. Donc, un historien politique ferait quelque chose avec, les historiens de l'art feront autre chose avec. Et d'ailleurs, il s'agit jusque-là d'une seule monographie, comme je vous ai dit, et il s'agit de quelqu'un en fait qui s'intéresse à une question très particulière, qui est le rapport entre musique et image. Et comme la musique est souvent référencée quelque part dans ces images, c'est justement par cet angle que ça a été étudié. Donc, vous voyez que à partir de ce genre d'image, on peut comprendre déjà qu'il y a des points de rencontre, mais aussi des points de tension dans les rapports entre les disciplines sœurs, comme sont l'histoire et l'histoire de l'art. Mais parfois, vous savez que les sœurs ont aussi tendance à avoir des querelles. Ça peut arriver dans la vie aussi. Justement, c'est autour de ce genre de choses que je voudrais donc commencer avec une première réflexion générale avant de passer à mon vrai sujet. Donc, vous voyez que le globe est un grand objet du XVIIe siècle, on le sait. Vous voyez que je joue un peu avec vous, parce que ça, c'est juste une petite partie, et ça, c'est la vraie peinture. Et c'est très à propos. Vous savez qu'il y a l'exposition sur Vermeer ces jours-ci au Louvre. C'est très difficile de trouver une place, mais voilà. Et vous savez qu'il est toujours question, presque toujours question, quelque part dans ces toiles de Vermeer, des références géographiques. Ça peut prendre cette forme-là, mais ça aussi peut prendre cette forme-là. On connaît cette peinture et on connaît aussi l'usage qu'on a fait de ça. Ça, c'est un livre écrit par quelqu'un qui est certainement une connaissance, probablement un ami de certains nombre d'entre nous, Timothy Brooke, Vermeer's Hat, traduit ici comme le chapeau de Vermeer. Si vous regardez de près cette carte, c'est très décevante. C'est une carte, en fait, dans le détail, il n'y a rien. Et juste là, si vous regardez en haut, c'est une carte qui porte des Pays-Bas et en particulier de Friesland. Donc, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec le monde, mais l'exercice que Timothy Brooke a fait avec, c'est assez typique d'un certain type d'approche d'historien par rapport à des images. Parce qu'en fin de compte, si vous regardez le livre de Brooke, qu'est-ce qu'il fait avec l'image? Ce qu'il fait avec l'image, c'est qu'il l'utilise en quelque sorte comme point de départ mnémonique. Ça rappelle un peu un autre exercice dans le temps qui a été fait par un célèbre historien de la Chine, Jonathan Spence, l'idée du palais de mémoire. Vous voyez, donc où dans une image, on pouvait trouver des éléments, et ces éléments seront donc des espèces de ficelles qu'on peut tirer dans ce sens ou dans un autre. Donc, par exemple, ici, on peut commencer à décortiquer un peu l'image en disant, alors il y a le chapeau, ça vient d'où, l'autre objet vient d'un autre endroit, et on peut faire en quelque sorte une histoire du commerce global à l'époque, mais c'est tout à fait un autre type d'exercice, par exemple, que n'importe quel exercice fait par un historien de l'art qui ne ferait jamais ce genre d'abordement d'une image. Donc, vous voyez ici déjà qu'avec les images, on peut faire des choses assez différentes, assez contradictoires parfois. Et nous, les historiens, nous sommes souvent assez coupables, je le dirais franchement, d'avoir une approche un peu trop simpliste, trop littérale par rapport à ces images. On traite ces images en tant qu'information. Donc ça a été parmi les faiblesses qu'on a reprochées à un certain nombre d'historiens, même des historiens assez célèbres, par exemple, comme Simon Schama, utilisant les images sur les Pays-Bas au XVIIe siècle. Alors, la réalité, c'est qu'on a fait mieux que ça aussi. Je reviens à un moment qui, pour moi, est un moment clé, que les années 80 du siècle dernier, où il y a eu une série d'ouvrages. Ici, je ne mentionne que trois, mais j'aurais pu mettre quelques autres aussi que je vais quand même mentionner de nom. Et ces ouvrages ont donc posé une série de questions justement sur le rapport entre historiens et historiens de l'art et comment on faisait pour aborder les images. Donc, j'ai choisi ces trois livres, le livre de Francis Haskell sur l'historien des images, sur les questions aussi de l'image et contexte. Puis, le livre assez connu, mais aussi assez controversé, il faut le dire, de Carlo Ginzburg sur Piero della Francesca. Et finalement, un livre qui a plus à voir avec le contexte parisien strictement dit, c'est-à-dire le livre de Serge Grusinski portant sur le Mexique et la colonisation de l'imaginaire, qui est resté pour beaucoup le livre le plus célèbre et le plus important de Grusinski. Alors donc, ces trois livres, en fait, derrière ces livres, il y a bien sûr aussi une généalogie plus dense et plus, qui va beaucoup plus loin. On sait que derrière ça, sur fond de scène, il y a les travaux certainement de Michael Baxendall. Il y a derrière Baxendall le personnage de Ernst Gombrich, et puis derrière Gombrich il y a le personnage de Abby Warburg, qui sont des références souvent que ceux parmi vous qui ont une certaine connaissance de Ginzburg, qui revient sans cesse dans les réflexions de Ginzburg, Et d'ailleurs, pas seulement par rapport à leurs travaux, mais aussi pour le cadre institutionnel qui est donné, par exemple, par l'Institut Warburg dans son cas précis. Mais c'est aussi très important pour Brzezinski, car, par exemple, Warburg avait travaillé sur l'Amérique et notamment sur les Indiens du sud-ouest de l'Amérique. Donc, il a aussi utilisé ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut, retirer de ces genres d'ouvrages? Ce sont des ouvrages donc, qui sont faits dans deux des trois cas, en tout cas, des gens, par des auteurs qui ne sont pas des historiens de l'art. En tant que formation, ils n'ont pas été formés comme historiens de l'art. Brzezinski est formé d'ailleurs comme philologue, il est chartiste. Et Ginsburg a aussi été formé essentiellement pour étudier des textes et puis par la suite il est passé aux images. Mais alors donc c'était dans ce va-et-vient entre texte et image que le jeu se fait dans ces ouvrages. Question de rapport, question de savoir s'il fallait faire une histoire sociale des images, quelle importance il fallait donner au contexte. Quelle importance il fallait donner à l'image en tant que telle, les aspects formels et ainsi de suite. Il faut dire que dans les années 80, quand ces ouvrages sont sortis, ils n'ont pas toujours été bien accueillis. Notamment, vous savez peut-être que le livre de Ginsburg a provoqué une forte polémique et il y a eu une espèce de levée de bouclier. De la part d'un certain nombre d'historiens de l'art qui ont vraiment très farouchement critiqué ces livres. Et là, il y avait quand même une espèce d'effet de guilde, pour ainsi dire, pour séparer un peu les approches des gens venus d'horizons différents. Mais en même temps, c'était une conversation qui s'avérait assez fructueuse en fin de compte. Et on a donc continué à développer ces approches dans les années à suivre, notamment dans les années 90 et 2000. Alors, bien sûr, si on regarde un certain nombre de ces exercices, on peut se demander pourquoi il fallait attendre les années 80 pour faire ce genre de choses. C'était tellement évident. Par exemple, regardez le type de matériaux que quelqu'un comme Brzezinski aurait utilisé. Ça, c'est un des célèbres codex mexicains du XVIe siècle, c'est le codex florentin, dans ce cas particulier. Et vous voyez que ça peut nous sembler absurde que quelqu'un, en regardant ces objets-là, aurait dit « je saute sur les images et j'arrive que à lire le texte ». Mais quelle absurdité! Mais pourtant, c'était comme ça qu'on a souvent traité ce genre de matériaux en faisant comme si il y avait soit un partage, une division de travail, c'était l'affaire de quelqu'un d'autre, soit on a fait, par exemple, même des éditions où en prenant un texte dont le manuscrit avait des images, on a produit une édition critique sans images. Ça a aussi été fait par le passé. Mais en fait, en quelque sorte, c'est aussi pour ainsi dire, pour restituer l'intégrité de l'objet même qu'on était en train d'étudier. Et ce n'était pas quelque chose de farfelu, ce n'est pas parce qu'on avait juste envie, pour une raison totalement arbitraire, de mettre ensemble les textes et les images, ou les contextes et les images, c'était parce que c'était très évident et qu'il fallait justement le faire. Alors, donc, tout cela, pour moi, ça représente le tournant visuel. Le tournant visuel, pour moi, c'est cette conversation qui a été entamée probablement à la fin des années 70, 80, avec ces gens-là. Je vous ai mentionné, par exemple, Baxendall. On peut rajouter un certain nombre d'autres noms. Pour moi, par exemple, quelqu'un qui m'a beaucoup appris, c'est par exemple quelqu'un comme Svetlana Alpes, travaillant sur les Pays-Bas au XVIIe siècle. Mais il faut aussi dire, et je vous signale ça, que tout le monde n'est pas d'accord pour dire ce que c'est en réalité le tournant visuel. Il y a au moins deux écoles, pour ainsi dire, deux types de façons d'aborder la question. Ça, c'est l'autre, hein, disons. Et je vais juste mentionner cette autre position parce que je pense que pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, ce n'est pas la position qu'on va suivre, mais ça vaut la peine quand même de souligner l'existence de cette deuxième position. Ça, c'est la position qui, plus ou moins, est associée avec une revue qui est la revue de Chicago Critical Inquiry. Et notamment, c'est la position qui est prise par celui qui a fondé cette revue, W.G.T. Mitchell, spécialiste de l'histoire de l'art, mais aussi de la littérature anglaise, et qui, lui, en quelque sorte, a voulu s'emparer de cette idée de tournant visuel en disant que ça venait de lui. Mais ça venait de lui dans les années 90. Et qu'est-ce que lui, il entend par tournant visuel? Parfois, il utilise le mot tournant visuel, mais souvent, il utilise le mot pictorial turn, le tournant pictorial. C'est un peu différent. Et en fait, l'approche est totalement différente. Parce que là, il ne s'agit pas de cette espèce de tendance qu'on a déjà vue dans les années 80, où il fallait réfléchir sur la médiation, sur le rapport entre texte et image, ou entre image et contexte de production, ou image et contexte social. En fait, là, c'est une proposition beaucoup plus radicale, et c'est une proposition, à mon avis, beaucoup plus... Moins facile à défendre, au moins de mon point de vue. Ça, c'est en fait quelque chose qui a à voir avec souvent ce qu'on appelle « thing theory ». La première fois que j'ai entendu « thing theory », je pensais que la personne avait un cheveu sur la langue, il voulait dire « string theory ». Mais non, c'est « thing theory ». C'est donc « chose théorie ». Alors, c'est quoi « thing theory » ? C'est l'idée qu'on trouve... qu'il faut en quelque sorte abolir la distinction entre sujet et objet. Et comment est-ce qu'on fait ça? On abolit la distinction entre sujet et objet en disant qu'il n'y a pas d'objet, il y a des choses. Et des choses ne sont pas des objets. Pourquoi? Parce que ces choses sont remplies aussi de subjectivité. Et donc, par exemple, vous voyez ici le titre, « Qu'est-ce que veulent les images ?» comme si les images veulent des choses. Ou ici, on a une application de ça en histoire des sciences, faite par quelqu'un qui est aussi associé avec cette revue Critical Inquiry, l'historienne de sciences Lauren Daston. Things that talk, des choses qui parlent. Mais est-ce que les choses parlent, ou est-ce que c'est tout simplement une espèce de métaphore qui a été tirée peut-être un peu trop loin? Si vous regardez le contenu de ce livre, il y a toutes sortes de choses, par exemple des musées, des choses assez compliquées comme les musées, mais aussi des choses relativement simples. Et en lisant ce livre du début à la fin, j'avoue que je reste toujours un peu perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire, des choses qui parlent? Mais alors là, on est dans un cadre où ce tournant visuel nous mène vers quelque chose. Alors, si on est bien parisien, on peut avoir un petit soupçon en regardant ces textes si c'est autre chose qu'une version légèrement anglo-saxonisée des pensées de Bruno Latour. C'est-à-dire cette espèce de tendance où on veut abolir distinction entre objet et sujet et donner à l'objet une vie même assez riche et donc une subjectivité. Et voilà. Donc, pour l'essentiel, je veux, pour moi en tout cas, et je pense que ça serait le cas pendant la plupart de cette journée, prendre un peu de distance par rapport à cette version de tournant visuel et revendiquer plutôt une généalogie intellectuelle en allant vers cette autre version que je viens de vous décrire, qui part donc des débats et des réflexions des années 80. Alors, les débats et les réflexions des années 80 portaient sur l'histoire, mais pas forcément sur l'histoire globale. Donc là, il faut quand même un pas de plus pour arriver à faire ce rapport entre tournant visuel et histoire globale. Il y a plusieurs façons de faire. Et là, dans le temps qui me reste, je vais prendre une série de matériaux pour aborder ça d'une certaine façon, en prenant un certain nombre d'exemples. Et bien sûr, là où on peut commencer, c'est la cartographie. Sujet qui sera abordé aussi par la suite. Alors, ça, c'est une carte très connue, c'est lié avec cette production autour d'Anvers et les Pays-Bas. lié avec des gens comme Ortelius, et etc., Mercator par la suite. Alors, c'est donc des textes qui ont été imprimés en utilisant un savoir qui venait un peu d'ailleurs, parce que même si la production, ça s'est fait dans les Pays-Bas, le savoir venait en grande partie de la Méditerranée et de la péninsule ibérique. Donc, c'était une espèce de coproduction, pour ainsi dire. Et ce sont des images qui ont beaucoup circulé, qui ont été amenées en cadeau, on verra, par exemple, dans les missions envoyées par des pouvoirs européens dans le monde extra-européen. C'était aussi des images qui ont été débattues et parfois qui faisaient des objets de discussions assez violentes. Et bien sûr, il y a une certaine façon d'aborder ces images. C'est la façon la plus simple. Par exemple, si vous regardez des textes de base portant sur ce genre de sujet, je pense par exemple au texte, petit texte de l'historien portugais Vitorino Magalhães Godinho qui s'appelle « Le désenclavement du monde », un petit texte qui fait 120 pages ou 130 pages. Alors donc là, Godinho a une vision parfaitement téléologique du développement de cette cartographie, c'est-à-dire on commence avec ce genre d'image, ça c'est la fameuse carte de Fra Mauro du 15e siècle, où on a une certaine vision du monde, un monde qui est centré bien sûr sur la Méditerranée et l'océan Indien. L'Afrique c'est en bas, donc il ne faut pas être confus, ça c'est l'Europe, hein? Donc c'est le sud vers le bas et le nord, le nord vers le bas et le sud par là. On peut prendre ça, ou même pour faire ça d'une façon plus dramatique, il y a cette espèce de reconstitution de la vision ptoloméenne faite par des gens du XVIe siècle pour démontrer en effet comment ils étaient beaucoup plus savants que les gens d'avant. Hein. Donc c'est une vision qui est faite pour accentuer les différences. Et pour vous dire, donc, en gros, qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'idée qu'on pouvait donc faire la circumnavigation de l'Afrique. Il n'y avait pas d'Amérique. Et puis, il y avait cet océan Indien assez vaguement défini. Il y a la péninsule arabe, bien sûr, mais puis l'Inde et la Taprobane, c'est-à-dire le Sri Lanka, et encore plus la Magna China et la Chine, et les Cathay sont très, très mal définis dans cette espèce de vision. Donc, on peut inscrire tout cela dans cette vision totalement linéaire. Le monde est révélé, en quelque sorte. C'est un topos, un grand topos du XVIe siècle. Le monde est révélé et va prendre sa vraie forme. On a abordé ça par des manières différentes, par exemple en citant le fameux vers de Sénèque, de Média, sur Nexit Terris Ultima Thule, sur le moment quand l'être humain va arriver à Thule, la dernière des terres qui pouvaient être découvertes par des gens. Et on va en fait utiliser ce texte de Sénèque comme espèce de prophétie. Et on sait que Christophe Colomb était lecteur de Sénèque et en fait il a même fait des annotations dans son copie qui a été commentée par son fils. Donc il y a cette façon de voir les choses et puis on arrive à cette autre idée et là donc on est justement avec Ortelius et puis avec Mercator, où le monde est révélé dans sa vraie forme, la circumnavigation devient possible, et voilà donc aussi, par exemple, les figures de rhétorique de quelqu'un comme Francis Drake, qui dit donc qu'il a, en quelque sorte, « the world encompassed », qu'il a pris le monde, en quelque sorte, saisit le monde, ce que va devenir par la suite aussi un peu l'idée dans les titres d'un certain nombre d'empereurs et des rois ailleurs dans le monde. Alors, est-ce que cette vision du monde était acceptée partout? Pas forcément. Au moins, il y a des topos sur la manque d'acceptation. Donc, cette vision du monde devient pas seulement une vision, mais une vision qui est une vision contestée. Et donc, il y a, selon un certain type de narratif du XVIIe siècle, deux sortes de cultures dans le monde. Les cultures qui sont capables d'accepter ce monde nouveau et changer dans son visage, et d'autres qui sont incapables de le faire. Donc, vous voyez, ça c'est un texte assez célèbre qui a été écrit par Edward Terry, qui était un prêtre, un protestant qui a été envoyé par le roi Jacques Ier d'Angleterre dans l'Empire moghol pour accompagner l'ambassadeur Sir Thomas Rowe. Et alors, il raconte cette histoire, selon laquelle, à un moment donné, on a voulu faire cadeau, précisément, de ce genre de carte à l'empereur moghol, l'empereur moghol Jahangir. Et ce qu'il nous raconte, c'est « The Mughal feeds and feasts himself with this conceit that he is conqueror of the world. And therefore, I conceive that he was troubled upon a time when my lord ambassador, having business with him, and upon those terms there is no coming unto that king empty-handed, without some present or other, of which more afterward, and having at that time nothing left, which he thought fit to give him, presented him with Mercator's great book of cosmography. Donc, il a décidé de donner le livre de Mercator au roi moghol Jahangir. Mercator's great book of cosmography, which the ambassador had brought thither for his own use, telling the Mughal that that book described the four parts of the world and all the several countries in them contained. The Mughal at first seemed to be much taken with it, desiring presently to see his own territories, which were immediately shown to him. He asked, where were those countries about them? He was told, Tartaria and Persia as the names of the rest which confined with him, and then causing the book to be turned all over and finding no more to fall to his share but what he first saw, and he calling himself the conqueror of the world, c'est donc Jahangir, c'est lui qui a saisi le monde, and having no greater share, it seemed to be a little troubled, yet civilly told the ambassador that neither himself nor any of his people did understand the language in which the book was written. And because so, he further told him that he would not rob him of such a jewel, and therefore returned it unto him. Donc, soi-disant, l'empereur moghol va rejeter cette vision du monde parce qu'il a sa part qui semble trop petite. Il est donc déçu, et donc cette espèce de nouveau savoir cartographique et cette représentation du monde fait par les Européens n'est pas à son goût, il va faire renvoyé d'une façon assez brusque l'atlas à l'ambassadeur. Mais en fait, on sait que cette histoire est totalement fausse. Pourquoi? Par exemple, parce qu'on a des peintures comme ça, où les peintures de la cour moghole ont justement peint d'une façon allégorique l'empereur moghol en train d'embrasser le roi Safavide, qu'il n'a jamais vu de sa vie, mais sans que c'était, il s'agit peut-être d'un rêve, de la représentation d'un rêve. Et puis, il y a cette espèce d'iconographie extrêmement compliquée, lion et agneau. Et puis, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde de près, et j'avais discuté ça à un autre moment dans mes cours de cette année, en fait, c'est assez détaillé. Il y a énormément de précision dans la carte. Par exemple, pas seulement on montre la Mecque ou l'Égypte, mais aussi, par exemple, est très bien marqué, on trouve Venedique, qui est donc Venise, on trouve Moscou, on trouve la France, on trouve même la Hongrie, qui est, donc la notation étant Magyar, et puis on a même les pays ibériques. La seule chose qui n'apparaît pas, c'est donc l'Angleterre, parce que c'est un problème de courbature. Vous voyez que c'est une appropriation et en quelque sorte une acceptation de la part des Moghols de cette façon de représenter le monde. C'est pas du tout comme si on renvoie l'atlas de Mercator en disant ça, ça n'a rien à voir avec notre façon de voir le monde. Donc il faut toujours prendre avec un peu de caution ces matériaux. Et là encore, je vous dis que on voit cette espèce de rapport très intéressant entre image et texte, parce que l'image montre que le texte ment. Parce qu'on peut pas avoir, on peut pas avoir une image comme ça si, on, en effet, on avait un rejet. Et la réalité, c'est que pendant assez longtemps, il y avait cette espèce de thème répété sans cesse de ce qu'on appelait la réjection islamique du savoir occidental. C'est un thème qui a été développé par plusieurs savants, en commençant avec Bernard Lewis, mais aussi des gens comme Irfan Habib ou John Kesser dans le cas indien, qui ont développé cette idée que la culture moghole n'était pas capable de s'ouvrir à une culture occidentale, et tandis qu'en réalité, on voit que les choses sont un peu différentes. On peut dire la même chose, et ça c'est beaucoup plus évident pour l'Empire ottoman. On sait qu'il y avait circulation justement de ces images, de ces façons de représenter le monde. Parfois, on a un peu trop exagéré, peut-être, mais néanmoins, il est vrai que si on prend quelque chose comme ça, c'est la fameuse carte de Piri Reis, l'amiral ottoman qui a donc passé du temps à la fois dans la Méditerranée et dans l'océan Indien. Finalement, il a été exécuté parce qu'il n'a pas réussi dans une campagne contre les Portugais. Mais le temps de son vivant, il a donc appris énormément de choses. Ça, par exemple, c'est une carte où il montre l'Amérique. On a beaucoup spéculé sur comment il est arrivé à cette information. Une des possibilités, on n'est pas sûr, mais une des possibilités, c'est que le célèbre Antonio Pigafetta, italien qui a accompagné Magellan dans son voyage de circumnavigation, à la fin de sa vie, aurait été à Istanbul. Et donc, il se peut que c'était Magellan qui a directement donné ce genre d'informations à la cour ottomane. C'est la spéculation, en tout cas, de l'historien jésuite Georg Schurhammer. Mais en tout cas, on sait que l'élite ottomane, pas entièrement, mais en grande partie, a accepté d'intégrer ces matériaux avec ces autres choses qui sont beaucoup plus connues, beaucoup plus banales. Ça, c'est aussi une production qui est liée avec Piri Reis. Et là, vous voyez encore une fois Venise. Et puis, ça, c'est Alexandrie. Donc, ça fait partie de cette espèce d'atlas qui est produit dans les milieux intellectuels ottomans du XVIe siècle, très stylisé, mais pas la seule façon de représenter le monde et les endroits. On sait qu'au même moment, quand Piri Reis faisait ce genre de choses, et Piri Reis était un homme libre, et il appartenait à une famille moyenne, mais assez importante autour de Galata. Mais il y avait aussi d'autres, par exemple, qui étaient à l'intérieur de palais. Ça, c'est le fameux Matrakche Nassou, sur lequel j'ai parlé aussi un peu dans les cours de cette année. Lui, un bosniaque converti à l'islam, formé dans l'Enderun, à l'intérieur de palais, et qui va aussi lui représenter le monde et ses villes. Ici, c'est la flotte ottomane en France, dans le cadre de l'alliance entre Suleiman et François Ier. Donc vous voyez qu'on avait pas seulement la cartographie grande échelle de genre qu'on a fait avec Piri Reis, mais cette espèce d'autre vision du monde, endroit par endroit, le monde comme une espèce, pour ainsi dire, comme un collier de perles qu'on met ensemble, où les perles sont des villes qui sont donc liées en quelque sorte dans ces pages qui peuvent être dispersées par la suite. Mais bien sûr, on sait qu'il y avait toujours ce débat entre cette façon de représenter le monde et les autres façons. Toujours au XVIIe siècle, on a continué à produire des visions du monde où, par exemple, ici, c'est le monde centré sur la Mecque. Et ça a beaucoup plus à voir, par exemple, avec les géographies arabes du XIIe, XIIIe siècle dans son genre, même si parfois il y a des informations qui sont glissées à l'intérieur de ces matériaux. Donc, du coup, on peut parler même de l'existence d'une espèce de dialogue ou une espèce de conflit dialogique, je peux ainsi dire, entre ces différentes façons de représenter le monde, qui peuvent représenter aussi parfois des luttes de factions à l'intérieur de la cour ottomane. C'est un sujet qui a été développé, par exemple, par Giancarlo Casale dans un ouvrage portant sur l'expansion maritime ottomane, qu'il n'y avait pas un point de vue de l'élite ottomane, mais plusieurs points de vue qui étaient souvent en train de se battre. Et finalement, au XVIIe siècle, on sait que ce genre de vision du monde qui vient de la cartographie européenne est largement, mais pas totalement accepté. Ça, c'est une carte qui vient de la production du célèbre Hagi Khalifa ou Katib Celebi dans les années 1630-40. Vous voyez qu'on a ici des éléments qui sont pris de la cartographie européenne. Il y a aussi des éléments qui restent dans les conventions plus anciennes. Par exemple, on dit ici « Iklim Asia ». Donc, c'est le continent d'Asie, mais c'est traité comme faisant partie des « Haftiklim », des sept clims. Donc, on a une espèce de va-et-vient entre deux sortes de façons de classer et classifier le monde. Mais dans le détail, il y a pas mal de choses assez intéressantes, des détails qu'on trouve pas forcément dans la cartographie d'auparavant. Et bien sûr, il y a ça qui est le plus frappant, c'est-à-dire chez Katib Celebi, on trouve pour la première fois une description relativement détaillée du Japon. Donc, de Yapunia, comme il le dit ici. On a fait des recherches et on sait que ça venait en grande partie du savoir jésuite, notamment le texte de Maffei qui circulait pas mal dans la cour ottomane. Donc du coup, vous voyez que cette idée qu'il n'y aurait pas eu de circulation, qu'il n'y aurait pas eu de passage et de transformation possible dans la représentation du monde est à prendre avec un grain, ou peut-être même plusieurs grains de sel. Et je passe maintenant donc à pour développer un peu la variété de ces possibilités, justement là où Katib Celebi est arrivé, le Japon. J'ai fait ça entre autres parce que je me suis pris le soin d'éviter les sujets qui seront traités par les intervenants par la suite. Donc, M. Clunas va parler de la Chine, mais je vais quand même traiter un peu le cas japonais. Le cas japonais qui reste quand même un cas particulier très intéressant parce que c'est un cas où l'ouverture et la fermeture sont des tendances qui vont jouer ensemble. Les rapports sont très intenses, mais extrêmement compliqués. Et donc, ils vont prendre plusieurs formes, dont des formes visuelles extrêmement frappantes. Ça, c'est les fameux écrans Namban. Il en a un certain nombre dispersés dans le monde, au Portugal, à San Francisco, dans le Rijksmuseum, et ainsi de suite. Et bien sûr, un des intérêts, c'est qu'ils représentent aussi, c'est les Occidentaux vus par les Japonais. Les Occidentaux, vus par les Japonais, en train de débarquer ici de leur bateau. On peut imaginer que ça, c'est le port de Nagasaki. Et ces Japonais, donc, représentaient les Occidentaux d'une façon assez particulière. On peut dire que c'est la grande tradition caricaturale japonaise, qui est une tradition médiévale assez forte qu'on connaît. Et donc, vous voyez, ces nez hautement exagérés, les chiens qui ont manifestement fasciné les Japonais. Il y a aussi la question des esclaves africains. Donc, tous ces éléments d'exotisme qui sont soulignés et qui sont soulignés donc, en jouant avec des formes de représentation qui ne sont pas innovation totale par rapport aux formes antérieures, mais dans le contenu et dans les détails, apporte beaucoup de choses qui sont donc des nouveautés justement du XVIe et du XVIIe siècle. C'est une question qui a été traitée par maintes auteurs. Je vous cite deux exemples, toujours une fois un exemple en anglais un exemple plus récent en français. Donc, notre collègue et ami George Ellison, par exemple, a beaucoup traité ces questions, parfois sous le nom de George Ellison et parfois sous le nom de Jurgis Ellisonas, mais c'est la même personne. Par exemple, dans ce livre-là, un ouvrage collectif, il traite justement ces transformations dans la deuxième moitié du XVIe siècle au Japon, ce qu'on appelle, parmi les historiens de l'art, l'époque Azuchi Momoyama, où il y a eu donc toute une transformation dans les représentations de la société, la cour de Nobunaga et de Hideyoshi présentée dans toute sa splendeur, une espèce de vision réaliste, tout en gardant des traits assez particuliers. Et ça, c'est la question donc, par la suite qui a été abordée par d'autres auteurs. Et par exemple, ce beau livre de Pierre-François Souyri qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça, où il traite cette question en utilisant cette approche qui est de dire c'est une façon d'être moderne sans être occidental. Et ici, moderne, ça veut dire aussi ouvert à des transformations possibles, mais aussi en quelque sorte perméable. Hein. Mais perméable, ça ne veut pas dire que ça devient un monde aplati où tout le monde est comme tout le monde. C'est pas, disons, les Japonais n'ont jamais voulu faire partie de ce monde plat de Thomas Friedman ou d'autres. Donc, vous voyez, ça commence à ce moment, ce 16e siècle, le contact avec les Occidentaux qui va donc donner un certain nombre de résultats, mais aussi des résultats donc au niveau de la cartographie japonaise. Et là, donc, je reviens sur ce thème de cartographie. Ça, c'est les cartes du monde, ce qu'on appelle des Bankoku Sozu, qui commence à la fin du XVIe et surtout au XVIIe siècle. Et là, vous voyez que c'est un monde qui est plus ou moins reconnaissable de la cartographie occidentale, sauf que le Japon est au centre. Donc ici, vous avez l'Amérique et ici, vous avez l'Asie. Mais en fait, un aspect intéressant sur lequel je vais revenir, c'est qu'on va combiner cette cartographie avec une espèce de petite vision ethnographique où on va aussi représenter les peuples du monde. Et leur différence, bien sûr, puisant encore une fois dans des auto-représentations, dans des textes ou des images qu'on trouve venant d'ailleurs. On a plusieurs exemples de ça. À ma connaissance, ça, c'est peut-être un des plus anciens de ce genre de Bankoku Sozu. C'est donc, en fait, si je ne me trompe pas, c'est dans l'Université de Colombie-Britannique, ça. C'est dans la collection de UBC. Hein. Là, vous voyez, encore une fois, c'est plus ou moins centré sur le Japon. Et en fait, c'est aussi autour de la ligne de Tordesillas, en quelque sorte. Mais c'est aussi accompagné, encore une fois, par ces couples qui représentent les peuples variés du monde. Ça ressemble un peu, mais c'est une ressemblance extrêmement générique au tableau de Castas, par exemple, qu'on peut trouver dans le Mexique plus tard. Mais en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu. Par exemple, en Chine, au XVIIe siècle, on avait aussi parfois des représentations un peu de ce genre. Les questions de ce genre ont été abordées dans plusieurs ouvrages. Je cite que ce cas précis de Marcia Yonomoto, qui a donc essayé de démontrer comment, en fait, cette espèce de façon de repenser la cartographie faisait partie d'une façon de repenser aussi la cartographie interne du Japon. Et en fait, aussi, ce qui est important, c'est que ça n'a pas cessé avec la soi-disant fermeture de 1640. Donc, cette idée de la fermeture et l'expulsion des Occidentaux et les effets qui seraient produits. En fait, on sait maintenant que ça a été beaucoup exagéré. L'importance et le niveau de discontinuité a été extrêmement exagéré, tandis qu'on sait qu'on a continué à incorporer de nouveaux éléments, des éléments venant, par exemple, des Néerlandais, mais aussi, et c'est parmi les apports de ce livre, les naufragés russes venant au Japon au XVIIe-XVIIIe siècle ont aussi apporté beaucoup d'informations qui ont été qui ont permis une espèce de mise à jour plus ou moins continue de ce savoir. Mais est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que est devenu donc la cartographie soi-disant traditionnelle japonaise dans ce cadre? Ça, c'est ce qu'on appelle la cartographie bouddhiste traditionnelle, le Go-Tenji-Kuzu, donc la représentation des cinq Indes, donc c'est une espèce de vision centrée sur une vision cosmographique centrée sur le mont Meru et avec le Japon en fait qui est ici en marge, mais donc c'est l'Inde et la Chine et ainsi de suite qui sont au centre, bien sûr, parce que c'est une vision où le bouddhisme et les origines du bouddhisme sont l'aspect central. Si vous avez vu le film assez discutable, à mon avis, de Scorsese sur Silence, Silence de Endo Shusaku, il a beaucoup exagéré, à mon avis, ces deux visions totalement contrastées, une vision bouddhiste du monde et une vision qui était plus ouverte à l'Occident. Donc, par exemple, si on suit ce genre de raisonnement, on dirait que les bouddhistes ont totalement rejeté tout ce qui était le savoir venu de l'Occident. Tandis qu'en réalité, on sait qu'il y a eu une conversation assez intéressante et il y avait des compromis. Et en fait, on a continué à produire, même pendant tout le XVIIe siècle, pendant le XVIIIe siècle, des textes, entre autres parce que ce qui était soi-disant le savoir occidental était aussi devenu le savoir chinois, parce que les influences sur la cartographie chinoise venaient par le biais de, entre autres, des fameuses cartes de Giulio Aleni et de Matteo Ricci, transformées en savoir chinois, puis importées dans le Japon. Et donc, ce n'était pas du tout le cas qu'il y avait un rejet total, et ce va-et-vient entre ces différentes façons d'aborder et de représenter le monde on continuait. Et d'ailleurs, on continuait justement avec la production de ce genre de cartes, toujours donc en mettant ensemble la représentation du monde et la représentation des peuples du monde. Là, vous voyez toujours le monde centré sur le Japon, mais avec l'Amérique et le monde afro-asiatique de ce côté-ci. Tout au long du XVIIIe et même dans la première moitié du XIXe siècle, ce n'est pas comme si ce savoir a disparu, a été rejeté. C'est resté parmi les savoirs possibles dont il y avait aussi, bien sûr, des milieux qui montraient une préférence beaucoup plus nette pour cette espèce de vision du monde centrée sur la vision cosmogonique du mont Meru et ainsi de suite. Alors, donc, pour terminer, je reviens sur ce qui aurait été normalement mon point de départ, c'est-à-dire les Portugais. Alors, les Portugais, eux, on sait, étaient responsables pour la production d'un certain savoir au XVIe siècle et aussi pour la représentation du monde. Ça, c'est une fameuse carte qui a été volée, d'ailleurs, c'est la carte qu'on appelle de Cantino, qui a été produite pas si longtemps que ça après les voyages de Colomb et de Vasco da Gama, et qui a été donc volée par un agent secret. Ça, c'est pour une très bonne raison, parce que les Portugais n'ont jamais voulu produire et distribuer leurs cartes. Donc, en fait, ils ont gardé cette information relativement précieusement. De temps à autre, il y avait des fuites. Donc, par exemple, des fuites vers Dieppe. Et l'école de Dieppe a par la suite produit un certain nombre de cartes basées sur le savoir ibérique en grande partie. Et puis, on arrive donc à ces versions imprimées dans les années 70-80 et ainsi de suite. Les Portugais, en fait, ont aussi produit en nombre assez limité des images au XVIe siècle. Et je vais juste vous laisser avec quelques réflexions sur une collection de ces images qui reste à étudier, mais qui me semble assez intéressant et assez fascinant. Tant qu'on sache, ça vient du XVIe siècle, mais comme les Portugais sont d'humeur très changeante, il se peut qu'on va un de ces jours dénoncer ça comme un faux. Mais pour l'instant, on pense que ça vient des années 1560 et ça s'appelle le livre de Lisuarte de Abreu. Lisuarte de Abreu était donc un Portugais en Asie qui est revenu sur un navire qui s'appelait Rainha dans les années autour des années 1560 et il a donc produit un texte accompagné par des images portant sur les flottes envoyées chaque année par les Portugais. Malheureusement, les images que j'ai ne sont pas très bonnes, mais aussi sur un certain nombre d'incidents survenus à des moments différents. Donc là, c'est autour de Dom Jorge Sousa. Il y a, par exemple, des représentations des batailles navales entre Portugais et Ottomans. Mais il y a aussi des choses assez curieuses et assez fantaisistes. Par exemple, ça, c'est l'histoire d'un navire qui a été renversé par un énorme poisson. Donc, en fait, et là, c'est une autre histoire qui a à voir avec une autre histoire de naufrage. C'est un curieux mélange, ce texte. Mélange de savoir géographique, de représentation du monde, pas sous forme d'atlas, mais sous forme d'épisodes, d'incidents. Et puis, on trouve pas mal d'éléments aussi de ce qu'on appellerait, si on était dans le monde musulman, on l'appellerait Ajaib al-Gharib. Les merveilles et les monstres et les merveilles, pour ainsi dire. Donc, ce genre de vision du monde n'a jamais été abandonné par les Portugais tout au long du XVIe siècle. Et quand ils représentent le monde, en fait, on revient sans cesse sur cette espèce de vision. Et ça, c'est un texte qui, à mon avis, mérite d'être étudié, encore une fois, pas dans une façon isolée, mais par rapport à la production textuelle des Portugais, pas simplement par rapport aux chroniques, mais aussi par rapport à une production textuelle beaucoup plus intéressante et beaucoup plus vaste. Il faut donc aussi peut-être abandonner un peu cette vision très patriote qu'on trouve chez un certain nombre de Portugais, où on insiste sur l'esprit scientifique du XVIe siècle, les hommes de la Renaissance comme Dom João de Castro, qui a produit ce genre d'images où tout est fait en ordre, tout est donc dans cette espèce de progression linéaire du noir vers la lumière. Donc, il faut peut-être aussi, dans le cas portugais, revenir sur ces questions-là. Et bien sûr, on peut étendre ça sur toute une série d'autres sujets. On peut, par exemple, penser justement à ces questions d'histoire de science que j'ai brièvement mentionnées dans le cadre de ce débat sur les choses qui parlent. Ça, c'était une tentative assez particulière de réconcilier, pour ainsi dire, l'histoire des sciences et l'histoire de l'art. Je pense qu'il y a, par exemple, énormément de choses déjà faites, mais encore à faire, par exemple, sur des questions très particulières comme l'histoire de la représentation du monde par le biais de la flore, flore et faune. Donc, par exemple, la botanique, qui est un grand sujet déjà au XVIe siècle, mais qui va devenir encore plus grand au XVIIe. Et là encore, il y a des choses à faire si on sort de l'histoire nationale et on va vers une histoire donc plus globale. Bien sûr, dans un cadre strictement national, on peut toujours faire la gloire des spécialistes de botanique aux Pays-Bas. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu, assez répandu, des gens comme Rumphius ou Van Reede, que vous voyez ici, avec le Hortus Malabaricus, ou Nicolas Witsen, des gens qui ont donc fait des collectes et qui ont produit des images portant presque sur chaque endroit dans le monde. Donc, si vous regardez la production néerlandaise, on en a pour l'Inde du Sud, on peut trouver pour la colonie de Cap, on peut trouver pour le Brésil, pour l'Amérique, pour le Japon, pour l'Indonésie orientale. Donc, ils ont couvert tout le monde et donc ils ont réussi à produire une espèce de vision assez complète de la botanique et surtout par rapport à la médecine. Donc ça, c'est un sujet, mais faut-il pas aussi penser au fait qu'il y avait derrière cette production néerlandaise d'autres productions ou peut-être d'autres productions en conversation avec cette production. Par exemple, il est connu qu'à la fois la tradition chinoise et la tradition japonaise étaient déjà extrêmement fortes en représentation des plantes, très très fines, et ça ne doit rien à la tradition du XVIIe siècle occidental. Des autres cas sont un peu plus compliqués. Par exemple, si on prend ces deux cas-ci, alors là, vous avez un texte ottoman et une peinture moghole. Là, il se peut qu'il y avait un rapport entre quelque chose qui était une production sur les plantes et les herbes venant d'une tradition italienne ou néerlandaise par rapport à cette production, même si on peut avoir des doutes sur ce cas-ci. Je pense que l'influence occidentale, je ne sais pas si ça saute aux yeux. Alors donc, là encore, partir de cette espèce de tournant visuel vers une histoire globale nous permet d'élargir nos horizons en histoire en général, en histoire des représentations, en histoire des sciences. Et voilà, donc pour ma part, je reste assez optimiste pour dire que il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je vous dis ça parce que dans les derniers temps, je suis assez inquiet de lire un certain nombre de nécrologies de l'histoire globale. Des gens qui ont décidé que l'histoire globale c'est déjà morte. Et pour de mauvaises raisons. Donc, par exemple, prenez ces deux livres-là. L'un écrit par une historienne américaine, l'autre par un historien allemand. Et qui nous ont expliqué que la raison pour laquelle on faisait l'histoire globale, c'était pour des raisons politiques. C'était pour justifier la globalisation dans le monde actuel. Et alors, donc, bien sûr, dès qu'on passe à une autre situation, quand on a la fin, soi-disant, de la globalisation, quand les pays commencent à fermer les portes, apparemment, il faut cesser de faire l'histoire globale. Parce que si on est là que pour être des conseillers des princes, il faut suivre plus ou moins les humeurs des princes. Alors, pour ma part, j'avoue que mon idée, en faisant l'histoire globale, c'était jamais pour aller souffler quelque chose dans les oreilles des gens à l'Élysée, ni donner de l'avis à la Bundeskanzlerin. Donc, c'était, à mon avis, si on faisait l'histoire globale pour les mauvaises raisons, on peut aussi l'abandonner pour les mauvaises raisons. Très bien. Mais par contre, on a aussi d'autres signes, je dirais, d'espoir. Et là, je vais donc terminer avec ce livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le fruit d'une collaboration entre plusieurs auteurs, dont quelqu'un qui est très connu en histoire de l'art européen, Thomas da Costa Kaufmann, mais avec d'autres collègues ici à Paris aussi, qui ont donc essayé de faire une espèce de bilan, hein, autour de la problématique des circulations dans l'histoire globale de l'art. Apparemment, ce n'est pas fait pour être lu par les princes, mais néanmoins, ça démontre que si on pensait, je pense qu'on pensait déjà dans les années 90, qu'il y avait des vrais problèmes à adresser, des problèmes épistémologiques, et que ces problèmes ne sont toujours pas résolus, donc je pense qu'il n'y a pas raison, et c'est assez prématuré de publier ces nécrologies de l'histoire globale. Donc je termine avec ces quelques réflexions. Je vais par la suite passer la parole aux intervenants. Je suis extrêmement heureux de les avoir ici. Vous savez que organiser ces journées, c'est un devoir, mais personne n'a dit qu'un devoir ne peut pas aussi être un plaisir. Je suis particulièrement content qu'on a eu la possibilité d'avoir ces éminents représentants de différentes disciplines et de différents aspects de l'histoire et de l'histoire de l'art ici. Donc je termine là et je vais peut-être demander au premier intervenant de venir présenter sa communication. Je vais juste dire deux mots sur lui.